Europe 1.
Le journal de 6h, Romane Hoquet, bonjour Romane.
Bonjour à tous. Les violences montent d'un cran. 9e journée d'action contre la réforme des retraites hier, avec des manifestations qui ont dérapé à Nantes, Rennes, Rouen. Affrontements avec les forces de l'ordre, bâtiments saccagés, jets de projectiles. À Bordeaux, le portail de la mairie a aussi été incendié dans la soirée. Dans la capitale, plus d'un millier de casseurs, une centaine d'interpellations et 149 policiers et gendarmes blessés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu à la préfecture de police de Paris hier soir.
Il y a des casseurs, souvent venus de l'extrême gauche, qui veulent mettre à bas l'État, tuer des policiers et s'en prendre finalement à nos institutions. Et oui, nous constatons qu'il y a de plus en plus de violence de la part de ces groupes d'extrême gauche. Il y avait 12 000 policiers et gendarmes, dont 5 000 rien que pour la préfecture de police à Paris, ce qui nous a permis qu'il n'y ait pas de drame aujourd'hui, malgré les images d'une extrême violence que l'on a pu constater. Il faut que nous comprenions tous que la possibilité d'une violence organisée par l'extrême gauche est un fait et que nous devons le combattre et que les policiers et les gendarmes sont là pour le combattre.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au micro de William Molinier pour Europe 1. Des violences jugées inacceptables, ce sont les mots ici d'Elisabeth Borne, la première ministre, qui a réagi sur Twitter dans la soirée.
Regain de tension donc et hausse de la mobilisation aussi. 3 500 000 personnes dans les rues hier d'après la CGT. Environ 1 million estiment les autorités. Et des records battus en tout cas dans plusieurs villes. Des cortèges plus fournis grâce en partie aux lycéens, aux étudiants qui ont rejoint les défilés pour cet acte 9. Justement, Louis Salé, combien y avait-il de jeunes dans ces défilés ?
Eh bien, comme pour la population générale, syndicats et gouvernements ont des chiffres différents, mais toutes les données confirment que la mobilisation des jeunes n'a jamais été aussi massive depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. D'après le syndicat étudiant l'UNEF, ils étaient 500 000 à battre le pavé dans toute la France, dont 150 000 à Paris. Mais selon le ministère de l'Intérieur, ils n'étaient que 16 000, un nombre tout de même supérieur aux précédentes mobilisations. Plus d'une centaine de lycées ont connu des incidents, d'après le ministère de l'Éducation, de type blocage, rassemblement, feux de poubelle ou même coupure de courant. Des universités qui n'avaient jusqu'ici jamais pris part à la contestation, enfin, ont été bloquées, comme la faculté de droit d'Assas à Paris.
Louis Salé, spécialiste éducation d'Europe 1. Et hier soir, l'intersyndicale a déjà acté un nouveau rendez-vous, le 28 mars, mardi prochain, pour une 10e journée d'action. Donc, côté transport, ça s'améliore aujourd'hui sur les lignes de TGV avec 3 trains sur 5, pardon, en région parisienne. Trafic normal dans le métro, mais deuxième jour de galère à prévoir dans le RER.
Si vous prenez votre voiture, prenez aussi vos précautions, puisque de plus en plus de stations-service sont à sec.
Oui, à peu près 8% dans le pays, mais le pire, c'est en Loire-Atlantique. Plus de la moitié des pompes manquent d'au moins un carburant. Une pénurie qui s'aggrave aussi dans le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne et le Maine-et-Loire. 6h04 sur Europe 1. Que s'est-il passé dans cette salle d'examen d'un lycée du Nord, là où un élève a fait un malaise cardiaque mardi pendant une épreuve du bac? Il est décédé à l'hôpital quelques heures plus tard.
Deux enquêtes ont été ouvertes.
Oui, l'une du parquet de Lille, l'autre de l'inspection générale de l'éducation nationale. En clair, le ministre Papendiaï veut savoir si l'établissement en question a correctement géré cette crise. Le reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Nord, Lionel Gougelot.
À peine quelques minutes après le début de l'épreuve d'économie et de droit, Nadir s'est brutalement effondré. Autour du jeune homme inanimé sur le sol, un moment de sidération, un début de panique parmi les élèves témoins de la scène, dont certains estiment que les adultes présents sur place ont plutôt tardé à réagir.
Il y avait des gens à côté, mais les adultes, ils réagissaient pas. Je veux pas dire qu'ils l'ont laissé là, leur propre chef, quoi. Ils paniquaient peut-être.
Ils ont pas fait les premiers secours. C'est une élève qui a dû le faire. Ils ont d'abord voulu chercher l'infirmière, mais comme elle était pas là, après ils ont cherché la CPE et après ils ont appelé les pompiers.
Le jeune homme qui souffrait depuis plusieurs années d'une grave maladie cardiaque décédera quelques heures plus tard à l'hôpital. Le rectorat de Lille assure que les encadrants ont réagi comme il fallait. Les camarades de Nadir, eux, se disent choqués d'avoir été contraints de continuer à plancher sur leur épreuve.
Et après qu'on nous a sorti de ça, les gens étaient toujours sidérés. Mais moi, j'ai mis 40 minutes à continuer mon bac. Et après, je me suis dit, bon, il faut que je continue à travailler, mais j'avais toujours cette idée dans ma tête.
Une cellule de soutien psychologique reste activée au sein de l'établissement. Le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, se rendra sur place lundi. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Au menu de votre journal à 6h05 sur Europe 1, on parle maintenant de votre pause déjeuner.
Eh oui, un plaisir chamboulé par l'inflation. Une fois de plus, presque 15% en un an sur l'alimentation. Alors forcément, on s'adapte et on change ses habitudes. Adieu jambon beurre de la boulangerie et autres bons repas au restaurant. Maintenant, le midi, pour vous peut-être, c'est sandwich triangle acheté au supermarché d'en face. Et il n'y a qu'à regarder les chiffres. Entre 2021 et 2022, les ventes de ce genre de snack ont bondi de 12,5% dans la grande distribution. Alors Chloé Lagadou a rencontré des travailleurs qui ont été obligés de changer de cantine.
Aujourd'hui, ça va être juste un sandwich pour 4,20€ et c'est déjà pas très mal.
Sophia tient dans ses bras son repas acheté au supermarché, seul moyen pour elle de manger à moindre coût le midi.
Habituellement, je prenais soit un menu, donc entrée, plat, dessert dans les restaurants, ou bien les formules aussi au niveau des boulangeries. Mais aujourd'hui, maintenant, je préfère prendre juste uniquement un sandwich, ça sera plus économique pour moi.
Au choix dans les rayons, sandwich triangle, wrap, salade, Valentin cherche le meilleur rapport qualité-prix. Pas facile à trouver, même dans un supermarché.
Honnêtement, mon budget, j'essaye que ça soit 5€, mais c'est toujours beaucoup plus. C'est toujours 7€, même pour un sandwich et des yaourts dans un supermarché, quoi. C'est vrai que c'est très cher pour trouver quelque chose d'intéressant.
Et en achetant le strict minimum pour se nourrir, la pause déjeuner cesse d'être un moment clé dans la journée de travail.
On perd en qualité.
On sacrifie un peu le plaisir, il faut manger, on mange et puis c'est tout, quoi. On compte un peu plus.
Alors au passage en caisse, les clients ignorent les chocolats et autres confiseries qui risqueraient de faire exploser leur budget.
Un reportage de Chloé Lagadou pour Europe 1, 6h07 du football avec le retour des champions du monde sur leur pelouse en Argentine. Premier match depuis le sacre des héros. Alors c'était la totale, hein, des feux d'artifice, des chants entonnés par 83 000 supporters dans le stade de Buenos Aires. C'était juste avant une rencontre entre l'Argentine et le Panama. Le Panama a battu 2-0 grâce, cerise sur le gâteau, au 800e but de la Pulga, aka Lionel Messi.
Et tiens Roman, son rival portugais Cristiano Ronaldo a lui aussi atteint un cap hier, 197e match avec la CSAO.
Oui, c'était face au Liechtenstein, battu par le Portugal avec un doublé de, devinez qui ? Alexandre,
écoutez,
Cristiano Ronaldo, une fois de plus.
Ronaldo, évidemment.
Eh oui, c'est la star de l'équipe, puisque vous voulez, il fait tout. Donc c'était un match de la phase éliminatoire pour l'Euro 2024. L'Angleterre a vaincu, l'Italie aussi. Et puis on espère la même chose ce soir avec nos Bleus.
Mais oui, France-Pays-Bas, premier match du nouveau capitaine Mbappé. Déjà très convaincant hier en conférence de presse, hein, Jean-François Pérez.
Oui, grand oral réussi, haut la main pour la star du PSG et des Bleus, mais qui en doutait ? Un quart d'heure chrono, passé à la vitesse de l'éclair, des échanges souriants, vifs, parfois tranchants, notamment quand nous avons demandé à Kylian Mbappé pour Europe 1 s'il allait conserver sa liberté de parole.
Pourquoi voulez-vous que ça change ?
Parce que le rôle de capitaine, c'est aussi un peu celui de diplomate en équipe de France.
Qui l'a dit ?
La tradition, Hugo Lloris, qui a été un capitaine qui mettait quand même beaucoup les formes.
Chacun est un capitaine en fonction de sa personnalité. Je ne suis pas comme Hugo, Hugo n'est pas comme moi, je ne suis pas comme... les anciens capitaines, chacun a été un capitaine différent, donc je serai un capitaine encore différent.
Un capitaine qui assure, je cite, qu'il n'est pas le supérieur hiérarchique d'Antoine Griezmann, avec qui il entend travailler main dans la main. Kylian Mbappé se veut fédérateur, tout le monde aura droit à la parole, à tel point qu'il partagera avec d'autres cadres les prochaines conférences de presse. Aucune question en revanche sur les Pays-Bas, les redoutables adversaires du soir, mais nul doute que le nouveau patron saura rappeler à ses troupes l'importance du rendez-vous pour placer d'emblée son capitanat sous le signe qu'il préfère, celui de la victoire.
Jean-François Pérez, France-Pays-Bas, ce sera à suivre bien sûr dans Europe 1 Sport qui vous attend dès 20h.
C'était le journal des sports avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Tiens, Omblin, Alexandre, deuxième quiz de journal.
Oh,
est-ce
décidément.
Que vous reconnaissez générique ? Je crois qu'Omblin a la réponse.
Oui.
Allez-y.
Je l'ai terminé même. Quelle tristesse, on attend la saison 2 hein, de Last of Us.
Attention, attention, pas d'indice,
ah oui,
pas d'indice dévastateur.
Ouh là là, on vous divulgage pas.
Non, voilà. Non, c'est juste une petite info pour vous dire qu'on a la date de la saison 2 qui a été communiquée hier soir par le patron de HBO, qui est la chaîne qui diffuse la série. Alors, Omblin, vous allez peut-être être déçu, mais ce ne sera pas avant 2025.
2025 ?
Voilà, 2020. Donc vous avez largement le temps de la voir, la revoir, oui. La re-revoir même voilà, avant la saison 2.
Bah voilà, c'est une très bonne nouvelle. Merci Roman Noquet, c'était votre journal de 6h sur Europe 1.
Il est 6h10 et vous restez avec nous dans un instant, les trois histoires du pressing. Alexandre.